11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Comme tous les week-ends, je vous ai sélectionné tous les moments qui ont marqué cette semaine. Et on va commencer sur une note humoristique avec Walter. Jeudi dans le Grand Matin Sud Radio, il nous a encore beaucoup fait rire quand il nous a raconté qu'il s'était fait insulter sur les réseaux sociaux. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Walter, bonjour.
Bonjour Cécile.
Alors, je suis plutôt très contente parce que vous avez l'air d'aller plutôt pas mal. Hein.
Ah bah, il a un chapeau. Ah oui, regardez bien chapeau. Sur YouTube,
exactement,
il a un chapeau.
Un très beau chapeau.
Pourquoi c'est pour que décoiffé, c'est ça.
Voilà, c'était pour pas impressionner tout le monde avec ma coiffure. Alors, oui, je suis content. Je suis content, Cécile. Mieux. Il y a plein de gens. Figurez-vous, oui, qui m'ont félicité pour mon intervention la semaine dernière.
Ah bah, attendez, on va faire un point. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu que vous avez dit que l'écrivain Gabriel Matzneff avait eu des relations avec des filles trop jeunes, mais du coup il y a plein de gens qui se sont indignés 30 ans après, et donc après ce sont pas des héros quand même, hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est un point de vue nuancé, c'est
vous
sûr.
Bien le souligner.
Mais ça s'est plutôt bien passé.
Eh ben oui. Même si quelques-uns évidemment m'ont injurié sur les réseaux sociaux. Ah voilà, si à 40 ans tu t'es pas fait insulter sur le net, t'as raté ta vie.
Ah bon, pourquoi?
Ah oui, bah, parce qu'il y a deux écoles. En fait. Oui. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui étaient fâchés parce que j'avais dit subir la pédophilie c'est pas terrible, mais certains s'en sortent. Il y en a même qui devient président de la République.
Non, alors, bon, si, non, bah, non,
j'avais dit ça la semaine dernière.
Certains
se sont fâchés en disant mais c'est incomparable, quel est le rapport. Alors j'explique, je n'ai jamais dit que c'était la même chose. Un mec de 15 ans, une femme de 35, il est content déjà à la base. J'ai dit que c'était une exagération, voilà, c'était une hyperbole. Voilà, une hyperbole. Ah oui, j'emploie des mots grecs si je veux. J'emploie des mots grecs, surtout quand on parle d'initier à l'amour des jeunes garçons. Alors par contre, il y a eu des injures plus graves.
Ah bon?
Ah non, mais vraiment à mon égard, notamment certains internautes qui m'ont traité de pédophile. Ah. Hein, de pédophile, oui. Alors ceux qui me traitent de pédophile, vraiment, moi je les encule.
Hein,
non, je les encule pas,
mais
je les encule pas, ils ont plus de 10 ans. Non,
Arrête. Ne pas écouter par les enfants, là.
Voilà. Non, mais évidemment, si, parce que je suis contre la pédophilie. Sinon, je serais en train de faire cette chronique depuis Fleury-Mérogis, évidemment.
Ben, oui, mais oui. Alors en fait, si on a bien compris, vous voulez dire que la sensibilité évoluait en fonction. Alors hier, on acceptait des choses qu'aujourd'hui, qui deviennent inacceptables.
Tout à fait. Alors c'est très bien, évidemment, qu'on soit contre les abus sexuels. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire gaffe. Parce qu'on élargit quand même vachement le concept. Hein. Mmh. Il y a un an, j'étais au Québec, j'ai tenu la porte à une dame, et au lieu de me remercier, elle m'a dit « Tu crois-tu que je sais pas tenir la porte moi-même, là ?» J'ai juste été galant, quoi. Hein. Je lui ai pas dit « Madame, t'es bonne, tu baises. » À ce compte-là, un mec qui paye l'addition au restaurant, ça sera bientôt considéré comme une agression sexuelle, hein, de payer l'addition. Non, ça, non. Non. Pourtant qu'il reste des restaurants, justement, ma chère Cécile. Parce que bouffer de la viande aussi, est de plus en plus mal vu. Mmh. C'est pas bon pour la planète, les vaches pètent, ce sont des êtres sensibles, elles connaissent d'ailleurs les horaires de train et tout ça. Bref, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, les restos à bidoche, ça devienne clandestin. Vous savez, comme les bars aux États-Unis pendant la Prohibition. Hein, il faudra un mot de passe hein, quand tu rentres à l'entrée. Le mot de passe, s'il vous plaît. Évric Caron, les pieds qui puent. Bienvenue. Bienvenue chez Hippopotamus. Vous voyez ?
Mais n'importe quoi.
D'ailleurs, à mon avis, de manière générale, je pense que tout ce qui touche à l'écologie va être de plus en plus craque-dedans, mal vu. Ça va créer des dilemmes, d'ailleurs, en tout genre. Moi, j'y ai déjà pensé. Par exemple, si vous avez un chien, il y a un chien qui traîne d'ailleurs toujours dans le studio. Enfin, une légende, comme tout.
Ouais, mais un sud radio.
Un sud radio, tout à fait, il y a un chien. Mais si vous avez un chien qui fait caca, qu'est-ce qui sera considéré, parce qu'il va faire caca, qu'est-ce qui sera considéré comme plus écolo? Ramasser sa crotte avec un petit sac en plastique, c'est pas très écolo. Ou la laisser là, c'est pas très écolo. À mon avis, le seul truc qui sera socialement acceptable, ce sera de manger la crotte de chien. Et je remarque d'ailleurs que les Chinois, qu'on accuse souvent d'être des gros pollueurs, ont réglé le problème. Hein, ils n'ont pas besoin de manger les crottes de chiens, puisque vu qu'ils mangent directement les chiens, c'est plus écolo.
C'est plus écolo.
Même si évidemment, ce qui serait encore plus écolo, c'est pas de manger les chiens, c'est de manger les Chinois, hein, puisqu'ils sont très nombreux. Mais alors, politiquement, c'est assez difficile à mettre en place. Hein, voilà. D'ailleurs, leur dirigeant. Leur dirigeant chinois, Xi Jinping, a fait connaître son opposition à cette mesure, puisqu'il a dit « Je m'oppose formellement à ce qu'on mange le peuple chinois ». Hein, il a dit ça. Enfin, il n'a pas dit tout à fait ça, il a dit « Ton, 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 ton ». Enfin, bon, bref, voilà, c'est ça. Ce qui nous amène au sujet des blagues racistes.
Ah bah d'accord.
Voilà.
Oh non.
Qu'on ne pourra plus dire non plus, bientôt, de toutes les blagues, même qui pourraient vexer l'une ou l'autre communauté, c'est terminé. Par exemple, la contrepétrie classique, la jeune Sarah est assise sur la berge du ravin, c'est la berge du rabbin, donc profitez-en, c'est bientôt interdit. Hein, en plus, déjà, les contrepétries, c'est ringard. À mon avis, ça sera interdit, comme tous les jeux de mots.
Oui.
C'est déjà un peu interdit chez les humoristes, ce qui est dommage, parce que c'est parfois très amusant. Hein, on ne se rend pas compte. Parce que moi, hier, je me suis rendu compte que le Qatar, par exemple, pour ce qu'on dit, est un pays très marrant.
Ah oui.
Parce que c'est le seul pays du monde dont le nom commence par Q. Ah, c'est marrant. Q.
Bah, non, Québec.
Ce n'est pas un pays indépendant jusqu'à
ah
preuve
oui,
du contraire.
Oui, c'est vrai.
Non,
ah
non,
oui,
c'est
oui,
le seul
ça,
pays, le Qatar commence par Q. Et en plus, leur capitale, c'est Doha, un doigt dans le cul. Voilà, ça.
Oh non,
c'est vraiment. À mon avis, c'est bientôt terminé.
Non mais le constat est triste, Walter. Voilà, vous prédisez un avenir sans viande, sans grivoiserie, sans jeu de mots.
Je vais faire quelque chose. Vous savez ce que j'ai mangé ce midi, Cécile?
Non.
Une escalope sur une belle salade. Donc c'est une escalope sur une belle salope. Voyez, en une phrase, il y a viande, sexe et contrepétrie. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, à la semaine prochaine.
Oh là là, j'en peux plus. Oh là là, ça y est, il nous a fâchés avec encore
les
moitié de la population.
Les Chinois.
Les Chinois, le Qatar, etc. Vous déclarez la guerre à tous ces pays.
Je peux dire que quand vous allez marcher
contre
dans la
tous
rue,
ces pays avec Sud Radio, alors on va s'allier, effectivement, mais on va avoir du mal quand même.
Écoutez, je suis diplomate et vous fournissez les munitions, mon cher. Ah ouais.
Sachez qu'aucun Chinois n'a été maltraité pendant cette chronique, hein, bien entendu. Et on retrouve Walter en podcast sur sudradio.fr. J'ai hâte de voir si ça va cartonner ou pas. Je pense que ça va cartonner.
Le meilleur de Sud Radio.
Humoriste Walter, que vous pouvez retrouver tous les jeudis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec l'invité du 10h midi, Ophélie Meunier. Votre rubrique 5 questions pour tout savoir avec Olivier Bossard, l'auteur d'une bande dessinée originale sur les finances. L'équipe des Vraies Voix qui nous a donné son avis sur les victoires de la musique et l'animateur Patrice Laffont qui a répondu aux questions de Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie. Restez avec nous.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Si vous avez loupé une ou plusieurs émissions cette semaine, pas d'inquiétude, j'ai sélectionné pour vous tous les moments les plus marquants. D'ailleurs, si vous avez manqué l'émission des Vraies Voix de mardi, je vous propose qu'on en écoute un extrait ensemble. C'était pendant le fameux tour de table de l'actualité. Christophe Bordet et ses chroniqueurs vous donnaient leurs avis sur les victoires de la musique 2020.
Le meilleur de Sud Radio.
Eh oui. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec une belle bande de mélomanes. Laura Tenucci, Philippe Binger sur 131 comme d'habitude. Philippe David, Philippe Rossi et celui qui n'est pas encore nommé aux victoires de la musique, mais qui sait, ça viendra peut-être un jour. DJ Pif.
J'aime être stone avec toi. J'aime être stone.
Ça c'est gentil ça.
Oui.
Sur Souchon, notre ami Binger, il danse, lui.
Ah hein, oui. On aurait dit Fred Astaire.
Ouais, Fred Astaire à la belle époque.
Même la musique. Mais qui
est-ce que vous savez faire.
Est-ce
que vous savez faire les claquettes?
Non.
Non. Je vous verrai bien pourtant avec Fred Astaire.
Je ne sais pas. J'ai été claqué rarement. Parfois
ça
claqué.
Ça dépend où.
Mais les claquettes, je ne sais
sur
pas.
Sur les fesses. Clac-clac.
Vous savez les faire.
Ah pourquoi pas?
Non, je ne pensais
mon
pas.
On en fait encore des claquettes?
Bah, bien sûr.
Bah, bien sûr.
Ah oui, bien sûr. Je vous assure qu'il y a des cours de claquettes en France et de bien danse, sûr. Évidemment. Bon, il y a un peu de tout comme cours de danse, mais cours de claquettes, ça marche d'enfer.
Et c'est extraordinaire.
Je me souviens de Shall We Dance, magnifique film.
Ah oui, absolument.
Absolument. Les claquettes étaient vraiment à la mode. Il faudrait un film comme ça, comme La La Land, mais version claquettes.
Non, mais aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de Français qui continuent de prendre des cours de claquettes, de tango. Ça marche très bien en France. Bah oui, c'est vrai.
Ah, le tango,
faites
c'est...
pas ça aussi, vous?
Non, pas du tango, non. Bon.
J'ai fait des cours de danse de salon.
Ça marche très bien.
C'est comme ça qu'on s'est connus.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'est vrai ça.
Oui, oui.
Vous avez un caniche ou pas?
Non, j'ai pas de caniche.
Parce que moi, j'associe tout ça en général. Les caniches, la danse de salon.
Non, on a des hamsters tous les deux.
Des cochons d'Inde.
Ah, des cochons d'Inde. D'accord. Ah, bah, je vous vois bien.
Mais
bien.
Vous savez que régulièrement à Toulouse, au beau jour, du côté à côté de la place Saint-Georges, il y a plein de gens qui dansent, mais des centaines de personnes qui dansent le soir du tango et de la valse argentine.
Mais bien sûr.
Vous l'avez fait? Non, moi j'adore le tango.
Ah bon?
Mais chantez pas.
Bon, en tout cas, sur Sud Radio, on a eu le concours Centre Accord Loft Music avec Joyce, Jonathan, maîtresse de casting, et puis les vainqueurs, l'UNIS. Just hold me closer. Eh oui. Et bien maintenant, il y a comme chaque année les victoires de la musique, beaucoup de nommés hein, dans la jeune génération et pas que. Mais là, on a entendu Philippe Catherine, Clara Luciani, Slimane Evita et puis Souchon. Alors bon, la jeune génération, c'est vrai que là, Souchon, oui, c'est pas vraiment la jeune génération. Il y a Catherine Ringer aussi d'ailleurs. Bref, une belle brochette. Qui a dit que la chanson française se portait mal ? Ça va très bien, on l'a entendu. C'est vrai, il y a des artistes qui ont vraiment du talent, des jeunes artistes.
Bah oui. Vous trouvez ?
Vous trouvez pas, vous ?
Souchon est très...
Ce qu'on a entendu, là, c'est vraiment sympa, quoi.
Oui,
non,
c'est vrai.
Vous n'aimez pas, vous ?
Si, si, j'aime bien.
Philippe Catherine, il est génial.
Ah,
original.
J'ai du mal à le supporter, lui.
Pourquoi ?
Je l'ai beaucoup aimé dans Le Grand Bain comme acteur,
oui.
Mais je ne suis pas fanatique de ses chansons.
C'est son côté décalé, peut-être.
Oui, voilà. C'est vrai.
Non, mais il a du mal avec les chanteurs décalés.
Décalé, c'est d'ailleurs gentil de dire ça, Philippe.
Ouais. Bah, comme il ne l'aime pas, on le met. Voilà.
Il a eu la chance d'avoir une... Je crois qu'il était marié en compagnonnage avec une actrice et une chanteuse formidable.
Ah oui.
La sœur de Lio.
Elena Noguera.
Oui. Voilà.
Ah oui, c'est ça, Elena Noguera. Oui.
Ah, ils étaient mariés ensemble ?
Oh, pas mariés, peut-être pas, mais enfin...
Aujourd'hui,
ils étaient accouplés comme les pigeons, quoi.
Aujourd'hui, il est avec Julie Depardieu, qui lui correspond totalement.
Oui. Ouais. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas dans cette liste, vous l'avez remarqué, il n'y a pas notre ami Cabrel.
Non, mais il faut
que. Ça vous attriste, vous ?
Mais non, puisqu'il n'a pas de nouvel album.
Ouais. Ah,
donc, oui. C'est l'actualité musicale. Il y a Angèle, moi j'adore Angèle, il y a Clara Luciani.
Oui.
Non, il y a une belle sélection.
Pourriez-vous nous chanter un peu de Cabrel ? Il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu.
Moi je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui. Après, il faut que je n'ai pas les paroles.
Je suis le gardien du sommeil.
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir.
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à...
Ouvrir l'espace de ses bras
pour tout reconstruire.
On va lui expliquer comment on fait l'amour aussi, tant qu'on y est.
On peut faire un duo. Là, d'un seul coup, c'est incroyable, tous les deux.
Tu veux qu'on fasse un duo ? C'est bon.
Mais à ce moment-là, on fait un duo Vartan-Hallyday, là.
Ah ouais,
j'ai un problème.
Je crois bien que je t'aime.
J'ai un problème.
C'est que je t'aime aussi.
Le meilleur de Sud Radio.
Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix vous donnent rendez-vous lundi à 17h sur Sud Radio. Allez, on continue avec l'atout charme d'M6, c'est Ophélie Meunier. Mercredi, elle a répondu aux questions de Valérie Expert et Gilles Gansman dans le 10h midi, dans le cadre du numéro de zone interdite diffusé ce dimanche soir à 21h. Un reportage bouleversant sur des enfants placés dans des foyers dont le tournage a beaucoup marqué l'animatrice. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Autre dysfonctionnement extrêmement grave, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans Zone Interdite dimanche soir. On a eu la chance de pouvoir voir ce documentaire glaçant, terrifiant. Je crois que les mots sont... On est happé dès les premières images. Donc,
révoltant aussi.
Révoltant, absolument.
On a du mal
à imaginer que ce soit possible et à croire absolument.
France,
mineur, alors ça s'appelle Mineur en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Pendant un an, les équipes de Zone Interdite sont allées dans différents foyers où sont accueillis des enfants qui sont placés. Et alors, ce n'est pas l'ensemble des foyers, mais il y a quand même globalement, visiblement, de gros dysfonctionnements. Alors, il faut raconter comment ça s'est passé. Les journalistes, en fait, ont été, c'est déjà la première surprise, embauchés.
Se sont infiltrés. Au départ, on a lancé cette enquête à Jean-Charles Doria, qui est le réalisateur de ce documentaire, a lancé cette enquête comme toutes celles qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on fait des demandes d'autorisation. Là, c'est auprès des départements, parce que les foyers en France sont gérés par les départements. Et on dit, voilà, on est journaliste, M6, on aimerait tourner sur l'aide sociale à l'enfance. Et il se trouve que beaucoup de départements ont refusé. Et donc forcément, on se dit que quand on n'a pas envie d'ouvrir les portes, c'est qu'il y a un loup derrière. Et donc, des journalistes de Tony Comity Productions se sont infiltrés dans différents foyers et ont découvert un système qui est totalement défaillant.
Avec des enfants laissés à l'abandon dans des états...
Une liste non exhaustive de ce qui se passe. C'est des enfants qui sont totalement délaissés, qui sont pour la plupart déscolarisés.
Oui, c'est ça.
Qui sont parfois assommés de calmants, parce que comme c'est des enfants qui ont tous vécu des traumatismes, et le premier qui est l'arrachement aux familles...
Donc des crises extrêmement violentes.
Qui ont des troubles du comportement, donc on les bourre de calmants pour avoir la paix. Parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs pour s'en occuper. Dans certains foyers, il y a un éducateur pour 12 à 13 enfants. Imaginez, dans n'importe quel
institution française où il y a des enfants, je crois que le ratio, c'est un éducateur pour 5 enfants maximum. Ouais. Donc là, c'est le double, avec des enfants en plus qui sont un petit peu compliqués à gérer. Ouais. Donc, et il y a quelque chose de terrible aussi qu'on a découvert, c'est que certaines jeunes filles fuguent à 12, 13 ans, partent 2-3 semaines. Personne ne va les chercher. Ça gêne, mais personne ne va les chercher. Et elles reviennent 2-3 semaines après et elles partent pour notamment se prostituer.
Drogue, prostitution.
Un défaillance énorme dans le système aujourd'hui de la protection de l'enfance en France. Donc on dénonce ça et on espère évidemment dimanche qu'il va y avoir réaction.
Oui, c'est ça. Il faudrait que cette émission serve à quelque chose parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces dysfonctionnements de l'aide à l'enfance.
Non.
Et là, c'est vrai que les images sont absolument révoltantes, vous l'avez dit, scandaleuses. Et puis, vous allez interroger, par exemple, François Sauvadet, qui est président de région, qui vous dit, mais non, pas du tout, tout me remonte, je suis au courant. Et quand vous lui montrez les images, visiblement, c'est plus compliqué.
Oui, alors, où est la faille ? À quel moment l'information n'est pas, remontée ? Bon, ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est certain que, comme on dit, d'une mare, ça arrive à une goutte d'eau tout en haut. Donc voilà, il y a un souci dans le relais des informations aussi, et on le voit avec cette séquence, notamment.
C'est vraiment vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. Si
mais ce qui est fou, déjà, pour commencer, c'est que les journalistes infiltrés n'ont eu aucun mal, c'est-à-dire un coup de fil, vous vous présentez, on ne vérifie rien, si vous avez la capacité à vous occuper d'enfants, d'adolescents,
ni de votre casier, d'ailleurs.
Ni de votre casier. Ça a été même très dur, je crois, pour une des journalistes qui, à un moment, a décidé de partir.
Épuisée, choquée de ce qu'elle avait vécu et vu. Mais c'est ça qui est dingue, en effet. Mais la raison, on l'imagine, c'est qu'ils ont tellement de mal à recruter. Ils doivent avoir tellement peu de candidats. Comme c'est compliqué de travailler dans ces foyers en tant qu'éducateur.
Oui, parce qu'on voit la violence de ces enfants. Le point commun, quand même dans ceux où ça se passe bien, c'est qu'il y a une violence chez ces enfants, comme vous l'avez dit, qui ont eu un traumatisme assez fort. Et donc, gérer ces enfants, ça demande des compétences particulières.
Exactement. Et pourtant, nos deux journalistes qui se sont infiltrés, c'est l'histoire de 5 à 10 minutes d'entretien. Et immédiatement, c'est aucune vérification, franchement, une expérience pas du tout convaincante auprès des enfants. Et elles vont quand même bosser avec des mineurs.
Ce qui m'a choqué de ce que nos auditeurs verront dimanche, c'est justement le... Je ne sais pas comment les gens employés là-bas peuvent au quotidien aller travailler et ressortir la conscience tranquille. Quand vous avez une séquence, par exemple...
Justement, pas tous.
Vous avez quand même une séquence d'un employé qui doit aller chercher les pilules pour un des enfants qui est très malade.
Ouais.
Et dans le pilulier, il n'y a rien. Ouais. Et elle va voir la responsable qui ne s'en soucie pas. Et qui dit, il sait ce qu'il doit
prendre.
C'est toujours comme ça. Et moi, je trouve que dans tous ces employés, y compris, par exemple, quand ils appellent leur supérieur, une vraie légèreté, à chaque fois, ils appellent leur supérieur.
Je ne crois pas que ce soit de la légèreté. Oui, je crois qu'ils
sont
dépassés. Ouais. Ils baissent les bras parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont à court d'idées, je pense, pour essayer d'arranger la situation. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment de la légèreté. C'est plutôt une forme d'abandon, en fait, de la tâche.
Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis votre tournage parce que vous avez, visiblement, certains ont su ce qui
s'est passé. Vous avez tapé dans la fourmilière.
Ouais, pour l'instant, on attend surtout la diffusion de dimanche, tout va être dévoilé. On a évidemment déjà, je ne vous cache pas, des retours de foyers ou de parents d'enfants placés qui ont eu vent de la diffusion du documentaire et qui commencent à nous raconter d'autres dysfonctionnements.
Mais il faudrait qu'au niveau politique, il se passe des choses quand même, parce que d'une manière générale...
Je pense qu'ils sont prêts à répondre.
Alors, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des foyers où ça se passe bien. Vous donnez d'ailleurs l'exemple de l'un d'entre eux.
Oui, on est dans un foyer d'Oberlin, dans le Bas-Rhin, exactement, qui est un des rares à ne... Certains nous ont ouvert les portes et le foyer d'Oberlin en fait partie. Et où on constate que, et heureusement d'ailleurs, s'occuper et remplir leur mission pour ces foyers, c'est possible. Parce qu'avec les mêmes moyens, les mêmes problèmes, des enfants aussi torturés, ils y arrivent. Pourquoi ? Parce que Célia Ruge, la directrice, a mis en place des équipes qui sont compétentes, qu'elle forme, qu'elle écoute, qu'elle encourage. Elle met en place des soins, il y a un un certain nombre de décisions qu'elle a prises qui font que ça fonctionne. Donc c'est possible.
Il y a une députée qu'on voit à la fin du reportage, Perrine Goulet, qui elle-même a été placée et qui dit qu'elle n'arrive pas, elle, à aller visiter des foyers. Elle dit que c'est plus facile de rentrer aujourd'hui dans une prison en France que d'aller visiter un foyer d'enfants qui ont été placés.
C'est autre chose que l'on dénonce aussi, c'est l'opacité du système. Ça, c'est que on a le sentiment qu'ils se protègent entre eux. Voilà. Alors pourquoi ? Franchement, c'est une question que je me pose après avoir bossé là ces derniers mois sur ce sujet avec Jean-Charles Doria. Pourquoi est-ce que c'est si opaque ? Et pourquoi juste on se dit pas à un moment donné, on met tout à plat, on casse tout et on refait tout mieux, quoi. Voilà, Perrine Goulet, qui est la chargée de mission, députée et chargée de mission.
Mais est-ce qu'il y a une volonté politique, à votre avis, de faire bouger les choses là-dessus ?
Franchement, d'ici dimanche, on l'espère, parce que c'est pas possible de laisser les choses comme ça. C'est absolument révoltant. On parle de nos enfants. C'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, c'est le premier relais à la famille dans notre pays. C'est-à-dire que pour des enfants qui n'ont malheureusement, et ça arrive plus souvent qu'on imagine, des parents qui n'ont pas la possibilité de s'occuper d'eux, qui sont défaillants pour diverses raisons. Le premier relais à la famille, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est eux qui sont censés donner à tous ces enfants la sécurité, l'apprentissage, tout ce qu'il faut, pour, la confiance en soi, pour être armé, pour réussir dans la vie. Et malheureusement, là, c'est pas du tout le cas.
Demain, on va en parler à Benjamin Taquet, qui sera demain à la matinale.
Et puis, nous, je pense qu'on fera un débat peut-être au lendemain de l'émission, lundi à 10h30, peut-être, si les gens de l'aide sociale, ils vous ont répondu ou pas. Pas vraiment.
Alors, les membres du gouvernement et tout ça. Alors, certains, oui, on voit très bien François Solanet qui a accepté de nous répondre. D'autres qui ont eu, comme on a fait une projection à l'Assemblée nationale.
Les responsables de l'aide sociale à l'enfance.
Les responsables de l'aide sociale à l'enfance, savent maintenant, je pense très bien qu'il va y avoir la diffusion du documentaire et s'arme et se prépare pour répondre dimanche.
Merci Ophélie Meunier. Ne pas manquer dimanche soir à 21h05, mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Merci d'être venue ce matin, Ophélie Meunier, sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio.
Et bien sûr, vous retrouverez Valérie Expert et Gilles Gansman dès lundi dans le 10h midi. Allez, restez sur Sud Radio, on va revenir dans un très court instant avec la séquence 5, questions pour tout savoir. Rémi André qui vous dit tout sur le réchauffement climatique des océans dans la rubrique Curieux comme Rémi et l'animateur Patrice Lafont dans Les Clés d'une vie.
11h midi, le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Comme tous les week-ends, j'ai le plaisir de vous accompagner avec une sélection des meilleurs moments de cette semaine. Et avant de poursuivre avec l'invité de 5 questions pour tout savoir, je vous propose qu'on se détende avec un peu de musique. Et je vous ai choisi un titre du DJ britannique Calvin Harris qui date de 2016 et qui a cartonné puisqu'il a été certifié 12 fois disque de platine à travers le monde et même disque d'or en Allemagne, en Autriche et en Nouvelle-Zélande. Voici My Way sur Sud Radio.
Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Thing in my way.
Calvin Harris dans le meilleur de Sud Radio. Allez, on poursuit avec un animateur qui a été à la tête d'une trentaine d'émissions durant sa carrière. C'est Patrice Lafont. Vendredi, il s'est confié à Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie et il est notamment revenu sur ses débuts dans une émission culte, des chiffres et des lettres. On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Il y a cette pièce Dernier carton au gymnase dont on va parler tout à l'heure et on revient sur une date très importante pour vous, le 4 janvier 1972. Ça vous dit quelque chose ?
C'est mes débuts aux chiffres et lettres ?
Exactement, avec ce générique. Alors là aussi, c'est une proposition d'Armand Jameau, Patrice Lafont.
Oui, absolument. Ben, je travaillais avec lui pour Aujourd'hui Madame depuis 2 ans.
Et Aujourd'hui Madame qui était la première émission où il y avait des chroniqueurs, c'était absolument pas courant à l'époque.
Absolument, c'est vrai. Non, mais c'est Armand, c'est un visionnaire. Hein. Ouais. Et qui touchait beaucoup de femmes l'après-midi, c'était sympa. Je l'ai présenté un petit peu, mais surtout j'ai fait les reportages. Et puis un jour, dans le groupe qu'il avait, parce qu'il y avait une grosse équipe, il s'est dit, quelle est la personne qui vaut pour eux. Puis j'étais le plus jeune, le plus dynamique et tout. Il s'est dit, bon allez, tiens, tu prends les chiffres à la Julio, je n'ai pas trop envie. Si, tu vas le faire, et je l'ai fait.
Voilà, les chiffres et les lettres qui étaient la suite du mot le plus long arrêté 2 ans avant. Vous regardiez le mot le plus long à ses
non,
débuts ?
Pas du tout.
Pas du tout. Vous connaissiez pas les... Vous ne regardez pas la télévision.
Si, je regardais un peu la télé, mais pas ça.
Voilà, il avait inventé l'émission dans un taxi. Et surtout, la première version du mot le plus long, ça s'appelait les 7 cases. Ça passait un dimanche sur deux à la télévision à 13h. Personne ne pensait que ça aurait autant de succès. Et le premier candidat du mot le plus long, est-ce que vous savez qui c'était ? C'était Maître Capello.
Ah, candidat ?
Candidat. C'est-à-dire, quand on voit les archives, la première émission présentée par Christine Fabrega et Jean Valton, le premier candidat, c'est Jacques Capello-Vissi, professeur. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il était au mot le plus long. C'est uniquement comme candidat.
Mais je vais ressortir de là érudit, alors.
et Jean Valton est totalement oublié aujourd'hui, alors que Thierry Leluron le considérait comme son maître. Il dit, si j'ai fait de l'imitation, c'est en voyant Jean Valton.
Ah, d'accord.
Alors, vous vous êtes retrouvé dans une émission, et vous ne pensiez pas que ça durerait aussi longtemps, Patrice Lafont.
Ah ben non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je ne pensais pas une seconde. Et que quand j'ai décidé d'arrêter au bout de 17 ans, Armand m'a dit « Mais Coco, t'es complètement idiot, t'es dans un fromage !» Et effectivement, il avait raison, puisque fromage coule toujours, si j'ose dire, 46 ans après.
C'était une formule toute simple, mais encore fallait-il inventer.
Non, mais c'est la formule la plus simple qui marche. Hein.
Et alors, le succès est venu immédiatement, comment ça s'est passé ?
Oui, je n'ai pas les souvenirs très précis, mais très vite, en plus, on passait à... On passait à 18h50, donc c'était l'access prime time. Donc, c'est venu très vite. C'était tellement simple, calcul, orthographe, et voilà, les mots, c'est l'essence de notre vie au départ. Hein,
et défense de la langue française.
Voilà, exactement.
Alors, c'est un temps où il n'y avait pas de buzz, où on s'amusait sur le plateau, tout se passait bien. Un jour, vous en avez eu assez, vous êtes resté, mais en coulisses. Et vous êtes producteur toujours des chiffres et des lettres.
Oui, c'est ça. Oui, je suis toujours producteur des chiffres et des lettres. Enfin, il y a eu une longue période, j'ai quitté, j'ai fait autre chose. Et puis un jour, Michel Cotta m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais reprendre cette émission ? Elle m'a d'abord posé la question, elle m'a dit, c'est en 2000, à ma place, qu'est-ce que tu ferais, Michel Cotta, qui était directrice du programme ? Tu garderais ou tu supprimerais ? Et moi, je ne suis pas très gentil avec mes camarades, je lui dis, je supprimerais.
Oui.
Je dis, mais t'es complètement fou, ça marche à l'étranger, on gagne du fric grâce à ça. Je dis, bon, bah alors ne me demande pas ce que je dois faire. Et c'est parti comme ça.
Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en coulisses et vous avez modernisé les chiffres et les lettres.
Absolument.
Mais c'est le changement dans la continuité.
Oui, non, enfin, j'ai beaucoup mélangé parce que l'émission allait un peu disparaître, et même disparaître complètement. Et le directeur des programmes, Emmanuel Garcia, m'a dit, écoute, essaye de trouver une formule qui soit plus proche des jeux actuels. Ce que j'ai fait, j'ai un petit peu réduit la part chiffres et lettres, puis j'ai amené d'autres choses et j'ai fait une émission un peu plus moderne, où on gagne un peu plus d'argent.
Le meilleur de Sud Radio.
Et rendez-vous lundi à 13h20 avec Jacques Pessis pour Les Clés d'une vie. On passe maintenant à la rubrique 5 questions pour tout savoir. Lundi, Cécile de Minibus recevait le professeur de finance Olivier Bossard, qui a écrit une BD pour le moins originale sur le sujet. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Vous êtes professeur de finance et directeur exécutif du MSC Finance à HEC Paris. Puis vous avez écrit ce livre qui s'appelle Introduction à la finance. Alors c'est une BD, donc c'est l'Argo Winch. Vous connaissez bien l'Argo Winch, le milliardaire humaniste. C'est une BD finalement pour rentrer dans les arcanes de la finance 2.0, mais d'un côté un peu ludique.
Voilà, tout à fait. Disons que moi, ça fait en fait plusieurs années que je recherchais un livre pour intéresser mes amis, mes copains, les amis de ma femme, à ce monde dans lequel je travaille, la finance.
Oui, c'est un peu vulgariser la finance. Hein.
Voilà, c'est
parce
ça.
Parce qu'à chaque fois, on se dit, oh là, on va passer une mauvaise soirée.
Non.
Le dîner va être compliqué.
Et justement, il y a une certaine appréhension aussi du public français de la finance. Il y a aussi beaucoup de clichés. La finance, c'est les bad guys. C'est Gordon Gekko de Wall Street. Ouais. C'est Lou de Wall Street. Et à l'opposé, Largo Winch, c'est un personnage sympa. C'est un jeune, c'est un beau gosse, il est milliardaire. Et il prend vraiment une finance responsable.
C'est ça.
Et c'est ça qui m'a intéressé aussi. C'est l'ambassadeur parfait pour parler de la finance sous un jour positif.
Alors, vous l'avez dit, il y a pas mal de films autour de la finance, parce que ça fascine quand même. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout dans le Loup de Wall Street et tout, on ne comprend pas tout, mais ça a l'air dément. Dans ce livre, il y a 42 thèmes autour de la finance. Vous expliquez effectivement de façon assez pédagogique donc la crise des subprimes, le crash éclair de mai 2010, l'affaire Madoff, par exemple. Et vous donnez des anecdotes qui sont assez croustillantes, ce qui fait qu'on rentre directement dedans. Est-ce que, par exemple, vous parlez de la crise de 2007-2008, est-ce qu'aujourd'hui, cette crise pourrait revenir ?
Alors, elle pourrait revenir parce qu'il y a eu des excès de titrisation. On vit dans un monde où la finance est rentrée de plein pied. Elle permet beaucoup de belles choses, de fluidifier l'économie réelle, apporter des capitaux aux entreprises. Mais également, il y a des dérives inévitables. Donc, c'est là que, justement, les régulateurs ont aussi toute leur place à prendre pour éviter les dérives. Il y a eu beaucoup de régulation.
C'est vrai que sur ce que dit Cécile, on dit depuis l'année dernière qu'on est à la veille toujours d'un crack.
Oui.
Donc il faut planquer, entre guillemets, son argent pour ceux qui en ont, etc. C'est quoi ? C'est du fantasme, ça ?
C'est pas du fantasme. Il faut savoir, les marchés financiers sont aussi cycliques. Alors, il y a eu une belle euphorie. L'an dernier, la bourse parisienne a été en hausse de 27%, 28%. En même temps, les marchés obligataires sont très bas avec les taux quasiment négatifs.
Bah,
Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On place son argent dans l'or, qui a une montée spectaculaire, dans l'immobilier aussi à Paris. Et on arrive à ce phénomène de bulle spéculative, où justement, des marchés, que ce soit l'immobilier, que ce soit les marchés actions, peuvent potentiellement, à un moment, redescendre, justement.
Et la bulle explosée, puisque c'est
la bulle explose, et on va repartir sur un nouveau cycle.
Voilà. Alors, dans ce livre, je parlais tout à l'heure de finance 2.0, puisque finalement, la finance a toujours été un jeu de vitesse. Vous l'expliquez très bien. D'ailleurs, il y a 300 ans, au Japon, il y a déjà cette communication un peu surréaliste. Jusqu'à aujourd'hui, avoir une communication qui est tellement rapide qu'elle se passe en millisecondes.
Tout à fait. Alors, comme vous disiez, c'est un jeu de vitesse. Au Japon, le premier trader de l'histoire de l'humanité, entre sa ville natale et la boursorie d'Osaka, il avait placé 100 paysans, un tous les 6 kilomètres, qui couraient, qui se relayaient pour lui donner le cours de riz avant tout le monde.
Ah oui.
Et encore maintenant, c'est un jeu de vitesse. Sauf qu'on n'utilise plus des petits bonhommes qui courent, on utilise des fibres optiques entre Londres et New York qui vous permettent de passer un ordre de bourse en 30 millisecondes. C'est une vitesse qui dépasse l'entendement. Dans les Flandres, entre Londres et Francfort, les hedge funds rachètent des pylônes désaffectés pour pouvoir faire passer des micro-ondes pour être les premiers à atteindre la bourse. Donc c'est un jeu de vitesse. L'accès à l'information aussi est très important. L'intelligence artificielle est rentrée de plein fouet là-dedans. On essaie d'analyser en temps réel un tweet de M. Trump. Quel impact ça peut avoir sur les bourses pour pouvoir agir à ce moment-là?
Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux, on est dans une société d'immédiateté. Oui. Et donc forcément, un tweet de chef d'État, ça peut changer la face des choses.
Voilà. Et c'est ça justement que le nouveau scénariste de Largo Winch, Eric Giacometti, a intégré dans le dernier diptyque. Il y avait une volonté de l'éditeur et aussi de Philippe Franck et d'Éric Giacometti de remettre l'argot au cœur de la finance.
Alors, vous évoquez aussi, dans un des chapitres, les places financières. Vous revenez sur Dubaï, qui est assez étonnant. Et Dubaï est la finance islamiste et les marchés financiers qui doivent se soumettre à la loi de la charia.
Oui, alors, c'est assez curieux, mais le monde islamiste a besoin de financement. Ouais. Et en même temps, ils ont des règles qui sont liées à la religion. Donc des règles notamment qui stipulent qu'on ne doit pas faire de paris.
Ouais,
comme les produits dérivés sont liés au pari, il faut en fait des astuces de structuration pour permettre aux entreprises qui sont soumises à la loi de la charia quand même de couvrir le risque.
Oui, mais ça veut dire que c'est quand même un peu un trompe-l'œil et que
on peut le voir comme ça. Ouais, c'est un peu un trompe-l'œil, mais en même temps, bon, il y a des règles à respecter. Il y a des règles aussi beaucoup plus responsables. La loi islamique prévoit qu'on ne parie pas sur des sociétés liées au tabac, liées au jeu, etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors, que ce soit avec cette finance islamiste, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs, c'est vraiment le monde de la finance qui gouverne notre planète, quoi. Que ce soit en France, en fait, en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, c'est le monde de la finance, non ?
Alors, est-ce qu'il le gouverne ? Je ne dirais pas ça, mais bon, moi, l'analogie que j'utilise, c'est un peu le sang qui fluidifie, qui oui. vient irriguer tout le corps de l'industrie réelle de l'économie.
Oui, oui.
Donc, sans finance, l'économie ne marche plus, l'industrie ne marche plus. Donc la finance, oui, est au cœur de la centrale nucléaire de toute entreprise.
Oui.
Et la finance aussi, puisque vous parlez des erreurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'algorithmes, d'ordinateurs, et presque la main de l'homme, on a l'impression que c'est totalement déshumanisé, qu'il n'y a plus de traders. Voilà. Mais vous parlez de ces problèmes aussi liés aux erreurs humaines et aux erreurs de machines qui peuvent forcément créer des gros problèmes dans le monde.
Oui, ce qu'on appelle justement les flash crash, on en parlait tout à l'heure, c'est un crash qui n'a pas de raison rationnelle et qui intervient tout simplement parce que les ordinateurs s'emballent.
Ouais.
Et dès qu'un ordinateur commence à vendre, les autres se disent « oui, il y a un mouvement à la baisse, il faut que je vende moi aussi ». Et il y a cet effet de boule de neige qui est assez terrifiant justement, et on se demande voilà, est-ce que les ordinateurs ne prennent pas le contrôle de
la finance ? C'est toute la question. Est-ce que demain on aura besoin de nous, de vous, pour contrôler ce monde de la finance, ou c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus, qui calcule beaucoup plus vite que tout le monde qu'en fait aujourd'hui ?
On en a quand même besoin, parce que derrière chaque ordinateur, il y a quand même des cerveaux,
oui, mais
des cellules grises.
À partir du moment où c'est rentré, c'est l'intelligence artificielle qui fait tourner les choses, non ?
Alors je cite une anecdote. Ouais. Goldman Sachs, la grande banque d'investissement américaine, pour le trading des actions sur le marché américain, à New York, en 2000, ils avaient 600 traders.
Ah oui.
Ils sont plus que deux actuellement.
Ah oui.
Ah, comme quoi.
Le reste, c'est les ordinateurs. Donc, il y a des métiers qui disparaissent. Mais à côté de ça, tous les ans, je forme 190 étudiants en master finance d'HEC.
Ils retrouvent du boulot derrière, quoi.
On a toujours besoin d'eux, justement, derrière. Mais avec des compétences techniques de plus en plus poussées, parce qu'on a besoin de comprendre l'outil informatique et de savoir le contrôler, justement.
En tout cas, c'est passionnant. Hein. Lisez-le parce que Largo Winch, déjà, merci, on adore beaucoup le personnage. Introduction à la finance des éditions Dupuis, coécrit avec Philippe Franck, Éric Giacometti et Jean Van Am aussi. Olivier Brossard, merci d'avoir été avec nous.
Le meilleur de Sud Radio.
Et pour la prochaine séquence de 5 questions pour tout savoir, rendez-vous lundi à 9h50 sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va revenir dans un instant avec votre rubrique Curieux comme Rémi. Rémi André qui vous apprend des tas de choses tous les jours dans tous les domaines, et cette fois-ci, il s'est intéressé pour vous au réchauffement climatique des océans. À tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Et avant de retrouver votre rubrique Curieux comme Rémi, je vous propose d'écouter un titre du groupe Téléphone sorti pendant mon année de naissance, 1982. Oui, ça ne rajeunit pas. Vous le connaissez très bien, j'en suis sûre, et vous avez forcément déjà dansé dessus. Ça s'appelle Cendrillon et c'est tout de suite sur Sud Radio.
Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Dans l'ambulance,
si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux.
Cendrillon dans le meilleur de Sud Radio, extrait de l'album de téléphone Dure Limite, composé par le grand Louis Bertignac. Allez, on va terminer avec la rubrique Curieux comme Rémi. Mercredi, il s'est intéressé pour vous au réchauffement climatique des océans. Et comme toujours, c'était très instructif.
Le meilleur de Sud Radio.
Bon Rémi, vous savez quoi?
Non.
Non, bah on a chaud. On a chaud. 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, la troisième la plus chaude en France. Et on n'est pas les seuls à avoir chaud, puisque les océans aussi ont chaud. Ça, c'est le réchauffement climatique qui atteint les océans, Rémi ?
Eh oui, Benjamin, même si lorsque l'on est au quotidien, comme aujourd'hui par exemple, dans la douceur, hein, qui est quand même assez remarquable, on ne peut pas l'attribuer forcément au changement climatique. Mais lorsque l'on prend les années qui se succèdent, eh bien l'atmosphère n'est pas la seule à souffrir du réchauffement climatique. Les océans ont connu leur année la plus chaude en 2019, concluant 5 années consécutives de records. Les chercheurs ont même mesuré la température de l'eau dans les 2000 premiers mètres de profondeur afin de disposer de données plus fiables que celles des eaux de surface soumises, elles, à des phénomènes saisonniers comme El Niño.
Et ça représente quoi, une augmentation de température des océans ?
Alors, vous avez raison, passons à du concret. En 2019, la température moyenne des océans était ainsi de 0,075 degrés supérieure à celle de la moyenne des années 1981-2010. Alors, l'augmentation semble vraiment ridiculement faible, mais cela correspond à une énergie accumulée de 228 trilliards de joules, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zéros. Voilà, exactement. L'équivalent de 3,6 milliards de bombes nucléaires comme celle d'Hiroshima. Il ne faut pas oublier que la planète est recouverte à plus de 70% de sa surface par des océans. Le moindre centième de degré représente une énergie considérable à l'échelle planétaire.
Et est-ce qu'on sait, Rémi, si ça va continuer ce phénomène ?
Alors à ce rythme, c'est certain. Non seulement les océans se réchauffent, mais le rythme s'accélère dangereusement. La hausse des températures de l'eau a ainsi été 4,5 fois plus rapide entre 1987 et 2019 qu'entre 1955 et 1986. Et ce n'est pas prêt de ralentir, les océans absorbant 90% des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines, qui battent eux aussi des records.
Non mais alors on a certains chercheurs qui nous disent que le corps humain s'adapte assez vite à l'augmentation de ses températures.
Alors c'est que contrairement au serpent ou au poisson, l'homme est un animal homéotherme, ce qui signifie que sa température interne est constante. L'organisme compense en permanence ses pertes thermiques ou au contraire refroidit le corps grâce à la transpiration quand il fait chaud. Alors chez l'humain, une température interne de 37 degrés est communément admise. C'est sur quoi repose cette norme de 37 degrés? Elle a été en fait établie en 1868 par un médecin allemand, Karl Reinhold August Wunderlich, qui avait mené une étude sur 25 000 patients et conclut à la température de 37 degrés comme point d'équilibre physiologique et à une référence de 38 degrés comme signe de fièvre.
Et cette norme, depuis, elle a changé, Rémi ?
Eh oui, aujourd'hui, les chercheurs proposent un modèle basé sur près de 700 000 mesures prises depuis 1862, qui permet de tracer l'évolution de la température du corps au fil du temps. Un modèle qui semble fiable tant il confirme une hausse chez les jeunes, chez les femmes ou à des moments avancés de la journée. Et ce modèle montre que la température du corps d'un homme né en 1800 était supérieure de près de 0,6 degré à celle d'un homme né en 2000. Et plus généralement que la température moyenne semble baisser de 0,03 degré tous les 10 ans. Je ne suis pas compétent pour vous affirmer qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de température de l'air et des océans et de la température moyenne du corps des humains, mais on peut se poser la question. Du moins, on surveillera sans doute ces températures dans les années à venir.
Bah oui, on va demander à Richard de venir vous relever la température tous les jours à ce moment-là.
Pas besoin de Richard. Maintenant, vous savez, les produits modernes permettent de tester sa température juste en appuyant sur une petite gâchette lorsque vous mettez le capteur près du front. Donc c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. Oui, et puis c'est efficace. Voilà. Merci beaucoup à Rémi André.
Le meilleur de Sud Radio.
Et Curieux comme Rémi, c'est tous les jours à 6h10 dans le Grand Matin Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous voulez réécouter l'émission, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur notre site sudradio.fr rubrique podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Schrein-Girma pour C'est ça la France, puis ça sera Invino avec Alain Marty. Passez une excellente fin de week-end à l'écoute de Sud Radio. Ciao.